Bonjour, merci à tous de nous avoir rejoints cet après-midi. On a la chance d'avoir une heure avec Scott Lynch et avec Hélène qui aura la grande chance de traduire. Regardez son visage heureux, voilà son sourire, formidable. Scott Lynch, vous êtes né en avril 1978 dans le Minnesota. Avant qu'on parle des salauds gentilhommes, avant qu'on parle d'écriture, dites-nous un petit peu, vous étiez dans une famille qui lisait, qui écrivait, comment ça se passait?
And of course, whoa. Pardon me. My French is terrible. My français terrible. So you're forced to endure my English. I did come from a family where reading was encouraged, not a particularly literary family. My father read for fun, and my mother read a great deal of romances. And my grandfather was an English teacher. So it was a background thread, but it was not a terribly literary family. Mostly, I was just a very imaginative child. I had what you might call a rich inner life, in that I was absorbed in books, drawing, writing, etc. Sometimes to the detriment of everything else. So partly it was just enough of an influence from the family, and more that I was kind of allowed to be myself.
Alors, je suis désolée, mon anglais est terrible. Donc, vous allez devoir supporter... mon français est terrible, je raconte n'importe quoi. Vous allez devoir supporter mon anglais. Donc, je viens d'une famille où on lisait, mais c'était pas forcément une famille très portée sur la littérature. Mon père lisait pour le plaisir, ma mère lisait des histoires d'amour, et mon grand-père était professeur d'anglais. Mais c'est surtout que j'avais beaucoup, beaucoup d'imagination. J'avais vu une vie intérieure très riche. Je lisais, j'écrivais, et c'était bien souvent au détriment du reste. Donc ça a été juste une influence suffisante pour que je me porte vers la littérature, mais principalement, je pouvais être comme je le souhaitais dans ma famille.
Quels étaient un petit peu vos livres préférés, vos auteurs préférés? Quelles sont vos influences?
You love this part. It's okay, there's only 37. When I was a young child, I don't know if they have them over here. Choose your own adventure books. Game books were very big over here as well. Fighting fantasy, that sort of thing. Choose your own adventure was formative for me. John Christopher, the White Mountains, the Tripods trilogy, City of Gold and Lead. The Pool of Fire. I'm trying to think of all the most complex and bizarre books I read when I was a kid. A lot of movies. I'm a huge fan of, I might as well have the Star Wars movies tattooed on the back of my eyelids. All the movies and special effects and fantasies of the 1980s in particular, when I grew up. Cartoons, Voltron, Transformers, things of that nature. Asterix. I had a friend who came to school from... he was an exchange student from England, so I had some exposure to European comics. And when I started reading seriously, it was... Doctor Who novelizations. And then the Doctor Who New Adventures, and from then, as a teenager, Isaac Asimov, Frank Herbert, William Gibson, Barbara Hambly, Ursula Le Guin, keep writing faster. I don't think you have to repeat the proper names. Joe Haldeman, and then when I got into fantasy, Ray Feist, and then Tolkien, and then, a million other people thenceforth. But when I was a teenager, my major influence, other than William Gibson, it was Dune. It was Frank Herbert. I was a massive, massive Frank Herbert nut as a teenager. And I was not alone. This was sort of a phenomenon. Teenage boys formed the mass of his fan mail in his later years of life. So I was part of a crowd. It turns out I was cool after all. That's a good start. We'll do the second and third parts of the list after you read all that.
Alors ça, c'est la partie préférée de l'interprète qui doit noter les noms très très vite. Il y a juste 37 livres à citer, ça va aller. Donc quand j'étais jeune, je lisais principalement les livres dont vous êtes le héros et de la fantasy. Alors je vous citerai comme ça en vrac John Christopher avec des romans comme Pool of Fire, Tripod. Si vous connaissez les titres en français, ça m'intéresse. Non, personne, voilà.
Le résumé de ton cauchemar.
On sait jamais, des fois on a de la chance. Hein. Sinon, bah, y avait aussi des films qui m'ont beaucoup influencé, comme Star Wars. Je pourrais très bien avoir les films de Star Wars gravés à l'intérieur de mes paupières, ce serait pareil, tellement je les ai vus. J'aimais beaucoup ce genre de films des années 80. Je regardais aussi les dessins animés. J'aimais bien les Transformers, Astérix. J'avais un camarade de classe qui venait d'Angleterre et du coup, j'ai eu un peu de connaissance des BD européennes. Quand j'ai commencé à lire un peu plus sérieusement, je me suis penchée sur les romans Doctor Who. En tant qu'adolescent, j'ai lu Asimov, Gibson, Le Guin. Quand j'ai lu de la fantasy, c'était plutôt Feist.
You got it.
Tolkien. Et en tant qu'adolescent, ma plus grande influence, à part Gibson, c'était Dune. Et il se trouve que je n'étais pas le seul, en fait. Finalement, j'étais peut-être cool malgré tout en tant qu'adolescent, parce que la plupart des gens qui lisaient Dune à l'époque, c'était quand même des adolescents. Donc voilà, j'étais cool. Et maintenant, pour le reste de la liste.
And now the second. No, that's it. That's it. I'll leave it at that for now.
À partir de quel moment vous avez commencé à écrire des histoires, des nouvelles, peut-être des romans?
I tried to write a choose your own adventure novel when I was 7, and I had no idea what I was doing, so I fucked it up. I did that with my mind. I got about 10 pages into it and realized that this required, you know, diagrams and graphs and charts. I later met and became friends with a writer who worked on Choose Your Own Adventures, and she showed me the template and the instructions that they used to set these things up and the mathematical structure of a game book, which I didn't have when I was a kid. So that was my first failure. And then I tried... Okay, when I was 11, I got the idea that I was going to write a 6-volume epic history of the American Civil War. A page and a half is as far as I got. I wrote a scene in which a Southern American boy in 1860 gets up and shaves and goes out to hitch up his horse and plow the farm and realized that I knew nothing about the Southern United States, about shaving, about horses, about farms, about anything I was writing about at all. So that project also died. My second failure to write a novel. And then I wrote a bunch of stupid crap when I was a teenager. I thought I was going to be a comic artist, a comic illustrator. And that's the ambition I sort of worked at, though calling it ambition is too kind. Because I was very lazy in many respects. I did not... I hit a skill plateau, if that's a good luck. I did not have the discipline as a teenager to continue with a life of illustration. But writing was something that I could actually do. Writing is the lazy man's illustration. So I turned into someone who cartoons in books and became a writer instead. I did not write anything that was remotely worth selling prose-wise until 2003 or so.
Can I go?
Yes, okay, please. Thank you.
Alors en fait, le premier roman que j'ai essayé d'écrire, c'était le roman dont vous êtes le héros. J'avais 7 ans, je n'y connaissais absolument rien et j'ai fait n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait tomber le livre par la pensée tout à l'heure. J'ai écrit 10 pages et je me suis rendu compte qu'il fallait avoir des graphiques, des tableaux pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé sur ces romans dont vous êtes le héros, qui m'a montré les instructions qu'ils avaient à suivre et la structure mathématique qu'ils devaient suivre. Et j'avais pas tout ça, moi, quand j'étais enfant, donc ça a été mon premier échec littéraire. Ensuite, quand j'avais 11 ans, j'ai décidé que j'allais écrire l'histoire épique de la guerre civile américaine en 6 volumes. J'en ai écrit une page et demie. Et j'ai écrit l'histoire d'un jeune homme dans le sud de l'Amérique dans les années 1860 qui se rase, qui monte à cheval, qui part vers la ferme où il travaille. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de comment on se rasait, je ne connaissais rien des chevaux, je ne connaissais rien de la ferme. Et du coup, ça a été mon deuxième échec. Donc j'ai écrit pas mal de choses complètement stupides quand j'étais adolescent. Ensuite, j'ai décidé que j'allais devenir illustrateur pour BD. C'était mon ambition, et le terme ambition est peut-être un peu exagéré. J'étais beaucoup trop fainéant pour y arriver. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade à ma limite. Hein. Je n'ai pas su aller plus loin. Je n'avais pas la discipline nécessaire pour pouvoir vraiment y arriver. Par contre, écrire, ça, je pouvais faire. En fait, l'écriture, c'est l'illustration de l'homme feignant. C'est sa façon à lui de faire de l'illustration. Du coup, maintenant, bah, quand je dédicace, je fais des petits dessins dans mes romans. Et je n'ai rien écrit de correct avant 2003.
Alors, qu'est-ce qui se passe justement en 2003 ? Comment se fait la bascule ?
Shit, the part where I have to explain this. I had been working for some time making gaming material. I did supplements and original games for the D20 system, which I sold in PDF. I self-published. And that's how I made my living for several years. And though I wasn't thinking about it as a conscious step to writing prose, it was forcing me to do was lengthy editorial construction of long projects. My longest game book was roughly 400 pages, out of which I had to build, you know, the table of contents, the index, organize everything. And I think what happened is that I learned inadvertently how to structure a project. Because previous to 2003, 2004, all of my attempts to write a novel were about a page and a half long. I would just, you know, and then have no idea what the hell happened next or what I was doing. And suddenly, after having worked on games for some time, I found that I could write a chapter, and it would be coherent, and it would have structure. And I think it was just absorbing that discipline, that ability to build, even if it wasn't in narrative prose, was my lucky break, as it were, because once that was done, I wrote the novel. It wasn't that easy, but that's the abstract version.
Ah zut, c'est le moment où je dois expliquer cette partie-là de ma vie. Alors, j'ai commencé à travailler sur des jeux pour le système D20. Je ne connais pas personnellement, sous forme de PDF, donc c'était de l'auto-publication. Mais même si j'ai pas fait ça pour apprendre à écrire, mais je pense que ça a été un vrai tremplin.
Your mind.
Donc j'ai dû écrire, le plus long que j'ai fait pour un jeu, c'est écrire 400 pages, et ces 400 pages, il faut les organiser, il faut faire un sommaire, savoir où on va, et ça m'a appris à structurer un projet. Donc jusque-là, à chaque fois que je m'engageais sur un projet, j'arrivais à écrire une page et demie au maximum. Après le jeu, j'ai réussi à écrire un chapitre entier, structuré. J'avais enfin la discipline nécessaire pour le faire, même si jusque-là, je n'avais pas écrit de la prose. Et je pense que j'ai eu de la chance justement de travailler dans ce domaine-là. Du coup, après, j'ai réussi à écrire un roman, même si, je ne vous le cache pas, ça n'a pas été si facile que ça, mais j'avais quand même beaucoup progressé.
Et ce premier roman, c'est lequel ? Ce sont les salauds gentilshommes, tout de suite, ou pas encore ?
I did think I was going to write another novel first, but lies sort of crept up on it from behind and sort of hit it over the head and hid the body. And it's strange, you know, because it's been nearly 20 years since I conceived that first project, and I don't know if it is actually ever going to be written. Because I mean that was the passion project of a 20-year-old, and you know I'll be 40 soon, and I'm old now, and things are different. And it's I don't know if I'm still the person to write that project, because I've had other ideas since then. I have more than enough ideas to keep me busy, on you know until I'm 90, if I should be so lucky. Incomprehensible mess is what it was. It was an urban fantasy set on a world that was nothing but one gigantic city that ran to infinity in all directions. Good luck. How can I complicate this for him? And maybe it will actually get written, so I won't spoil it. But I called the project The Conscience of the Storm. And, you know, I just don't know. It's sort of hovering between existence and non-existence at this point.
Okay, so you never wrote it.
No, I wrote...
It was your project.
I wrote pieces of it. I mean, there are chapters in existence, but... the Gentleman Bastard books, The Lies of Lochlemora, got all of my good work. I got some practice out of this one, but then Lies sort of took over.
Okay. Alors en fait, j'avais envie d'écrire un roman, mais quelque part, la vie est arrivée derrière moi, m'a tapé sur la tête, et hop, on a oublié cette idée-là. J'avais 20 ans à l'époque, c'était mon projet, mais je ne l'ai jamais écrit. J'en ai écrit des bouts, en fait, mais je ne l'ai pas écrit en entier. C'était quelque chose qui me passionnait quand j'avais 20 ans. J'en ai presque 40, je vieillis. Donc je ne suis pas sûre d'être encore la bonne personne pour l'écrire. En plus, j'ai eu plein d'idées entre-temps qui peuvent encore me tenir jusqu'à mes 90 ans, si j'ai de la chance. En fait, c'était un vrai bazar, ce roman. C'était de l'urban fantasy. C'était un monde qui n'était constitué que d'une seule ville et qui s'étendait vers l'infini dans tous les sens. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je l'écrirai un jour. Ça s'appelait Conscience de la tempête. Et donc, j'en ai écrit que des petits bouts. J'ai gardé tout ce que j'avais de bon en moi pour les romans de Locke.
Et alors, comment sont nés justement ces romans dans votre idée ? Vous saviez tout de suite que ce serait une longue série ? Quelle a été l'étincelle de départ ?
You know, it's sad. I wish these days I keep a diary of not every event in my life, but events specific to the book I'm writing. I will leave little notes as to what I was doing, what chapter I worked on, and just little hints so that when I read this later, I can reconstruct everything else, just these little memory prompts. I didn't do this when I was writing Lies, and I regret it because so much of it has already become just a blur. I mean, I was I was very young, I was very poor, I was very desperate, and a lot of it was written in this sort of white-hot heat of desperation. Trying to make a living for the first time on my first advance alone, and I was moving out with my fiance to our first home together, and we were learning how to be adults living together while I was learning how to write a novel, and life was just very busy, and I regret that a lot of that process has sort of turned into one smear in my mind. But, you know, as to where the ideas sort of came from, there's just it was that nebulous magic period, circa 2003, 2004, where suddenly all of these thoughts that had just been, you know, just a mess, suddenly had organizational structure and could suddenly be applied. I suddenly had the ability to use them practically, whereas before it had just been just a big mess, just a big blur. So I think it was just an inevitable. My God, my accent is changing since I came to France. I become self-conscious of my English. Thanks, Eileen. I think it was just an unintended consequence of basically doing serious, boring work for a couple of years. It had a happy result.
Alors en fait, c'est un peu triste parce que aujourd'hui, je tiens un journal. Alors de pas tout ce qui m'arrive dans la vie, mais tout ce qui est lié au roman, de comment, de ce que j'écris, savoir pour pouvoir en fait relire ça et me rappeler comment ça s'est passé. Et je l'ai pas fait pour les mensonges de Lochlemora. Et du coup, en fait, c'est un espèce de, enfin, tout est très flou de cette époque-là. J'étais jeune, j'étais pauvre, j'étais désespérée. Et justement, j'ai travaillé sur la base de ce désespoir. J'essayais de gagner ma vie. Juste à ce moment-là, j'ai emménagé avec ma fiancée. J'apprenais à écrire en même temps que j'apprenais à devenir un adulte. J'avais une vie très bien, bien remplie. Et du coup, le processus de création du roman, enfin, je m'en rappelle absolument pas. Mais donc dans les années 2003-2004, c'est le moment où la nébuleuse de mes idées s'est précisée, s'est passée d'un bazar pas possible à quelque chose de structuré, et j'ai pu m'en servir de façon très pratique. C'est finalement, je pense que c'est la conséquence inévitable d'avoir travaillé dans un boulot super chiant pendant longtemps.
Qu'est-ce que vous aviez envie de faire avec ce roman en prenant tout de suite des héros qui sont plutôt des escrocs?
That's a good question. Sounds like a moral judgment. I knew that I wanted them to be thieves of some sort, and I knew I wanted them to have vulnerability. With Locke himself, that meant personal vulnerability, physical vulnerability. It also meant making the gentleman bastards such that they were, you know, friendly to one another, loyal to one another, very warm, because I knew that when I swooped in to destroy that, it would be a profound emotional experience for the reader, ideally. I'm sorry, I'm spoiling my own books. It's been 10 years. You were warned. But that sounds horrible. But I mean, that is it is not my job, or it shouldn't be my job to provide an anodyne experience. It's not my job to write novels that are like, I don't remember if I read it or not. I guess. I mean, I really want to generate a profound emotion, whether that is, wow, this book is amazing, or wow, this guy's a fucking idiot, I'm never going to read his worthless nonsense ever again. At least you had some sort of rousing emotional reaction to it, even if it was disgust. And so it is essentially my job. It's the basic structure of how I work, to set something nice up and give you a nice thing and then break it. And to revel in the feelings that result. So that's what I wanted. I wanted characters who had the social mobility and the relative freedom provided by their station in life in this fantasy society, which is not that much of a fantasy society based on our history, where the only people who have real freedom of movement are those who live outside of the strictures of the economic system. So it was a combination of aesthetic and practical needs.
Alors, c'est une très bonne question. Je savais que je voulais que ce soit des voleurs. Je voulais également qu'ils aient une certaine vulnérabilité, notamment physique pour Locke. Et dans les salauds gentilshommes, ce sont des amis, ils sont loyaux les uns envers les autres. Et je savais pertinemment que j'allais débarquer là-dedans et que j'allais tout casser pour créer une expérience pleine d'émotions, en fait, pour le lecteur. C'est ça le but du jeu. Ça peut paraître horrible de dire ça, qu'on va tout casser, mais c'est mon boulot de vous faire vivre une expérience dont vous vous rappellerez. Je ne veux pas faire partie de ces romans qu'on lit et qu'on se dit « Ah, je ne sais plus si je l'ai lu ou pas, je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle ». Moi, je veux que vous vous en rappeliez, que vous ayez une émotion forte en le lisant, et que ce soit positif ou négatif. Donc que ce soit « Ah, trop bien ce bouquin, j'ai adoré, c'était génial », ou « C'est quoi cette merde, plus jamais je lirai cet auteur-là, je m'en fous ». Voilà, même si c'est du dégoût que j'ai provoqué chez vous, au moins je vous ai fait réagir. Et donc pour moi, c'est mon boulot de vous présenter une petite histoire toute mignonne, et hop, j'arrive, je casse tout. Et j'adore ce sentiment, justement, de tout casser. Je voulais des personnages qui aient une certaine mobilité sociale, une certaine liberté dans leur société. Et pour moi, les seuls qui pouvaient avoir de la liberté, c'était ceux qui se trouvaient à la marge ou à l'extérieur du système économique de la ville.
Ouais, parce que ce sont à la fois des escrocs, et ils forment une sorte de famille ensemble.
Oui. Exactement.
Why?
Ah, okay. Oh, okay. I actually have to answer now? God damn it. Okay. So I previously talked about an American crime writer named Ed McBain. I'm not going to bore you to death by talking about Ed McBain again. But he conceived of this notion of not just having the individual characters in a crime story be the heroes, but of having the rotating cast, the ensemble cast, or ensemble, sorry, We steal so many words from French into English, and then we pronounce them in our own fashion. It's surreal. I was sorry. I found that notion enchanting. And at first I thought I might do it with the whole city and just draw the life of the fantasy city. But that was a bit much. That was a little too ambitious and too dehumanizing. So I wanted a narrow focus, and I wanted a novel in which there was a mostly obvious protagonist, but he was surrounded by a fairly vivid crew of individuals who would rapidly become sympathetic to the reader. Hopefully more sympathetic than the main character. Locke is a bit of a fuck-up, and Locke is a bit of an idiot. But boy, he's got great friends. It's that thing that happens when a group of friends complements one another very well. When you put five people together in, say, a living situation, and out of their combined abilities, you get the equivalent of one fully functional human adult. And so it is with the Gentlemen Bastards. All of their rough edges complement someone else's smooth edges. And they complete one another. Sabitha criticizes Locke for this in a later book, in which she basically says, I had to invent myself. I had to be myself in every respect. You have always had Jean to be your strength. You have always, you've never had to develop yourself in the areas in which he is able to carry you. And to a certain extent, that's the fascination and the vulnerability. They are well-oiled components of a dangerous machine, but when you remove components from a machine, everything breaks down. So there's fascination in doing that and writing that, and hopefully in reading it.
Alors, j'ai déjà parlé de Ed McBain.
Ed McBain.
There you are. Qui a une notion très intéressante, qui pense que un roman ne devrait pas être basé sur un héros seul, mais sur un ensemble de personnages. Ensemble de personnages, parce qu'il l'a dit à la française, et que les anglophones ont tendance à voler des mots au français et qu'après ils le prononcent comme ils veulent et qu'on ne comprend plus. Mais voilà, donc l'ensemble du.
Ensemble du personnage. Are you making fun of me for ensemble? Is it. Now I can't say it in English! We say ensemble.
Yes, that's very good.
Okay, we say ensemble. Okay.
Donc, au
ensemble.
Début.
Ensemble du personnage.
That's what I said. Anyway.
Ensemble du personnages.
Et donc, au début, j'aimais beaucoup cette notion et je voulais faire ça en basant sur la ville entière. Et je me suis très vite rendu compte que c'était beaucoup trop. Donc, je me suis dit qu'il fallait prendre moins de personnages. Et donc, j'ai voulu créer un personnage principal, mais avec tout un groupe qui l'entourait, qui serait très présent. Et qui serait également très sympathique et potentiellement plus sympathique que le personnage principal, Locke, qui est quand même un bel enfoiré, mais qui a de super amis. Et justement, les amis se complètent les uns les autres. C'est un peu comme quand vous mettez 5 personnes dans une pièce et qu'à eux 5, vous pouvez avoir un adulte complet. Et c'est exactement ça pour les salauds gentilshommes. Ils se complètent les uns les autres. Et il y a un personnage qui fait la remarque à Locke dans les romans suivants, qui lui dit qu'elle a dû s'inventer elle-même, alors que lui a toujours eu Jean pour force, et du coup, il a jamais eu à être fort lui-même. Quelque part, les salauds gentilshommes sont une espèce de machine à plusieurs, mais du coup, si on enlève une pièce de la machine, tout s'effondre.
Parlez-nous aussi des villes, puisque souvent vous dites que les villes sont presque des personnages principaux à part entière. Et vous en changez régulièrement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec les villes? Comment est-ce que vous les composez? Et quelle importance ça a dans l'histoire?
They're very important in the story. I grew up in a very idyllic, very comfortable, very wonderful suburb, in basically the nicest imaginable place in the United States, as far as I'm concerned. And I grew up in the shadow of a fairly big city, fairly big, 150,000 people. Oh my God, big for the area. But so to me, the city was always, you know, on the horizon, and it was always a place to escape to. I mean, it was a symbol of freedom. You know, the city was where me and my friends would go when we got our driver's license and could escape, you know, the attention of our parents for a few hours. It was big and mysterious and sometimes dangerous, and there were, you know, cool things there and shops and so on and so forth. So I've always had the enchantment of the city, the visitor's enchantment of the city. And I did end up living in Minneapolis for a number of years, so I've had something of an urban experience, but I'm not by nature, you know, city-born. So some of that, you know, that pleasure of visiting, that enchantment with the fantasy city, I wanted to convey. And I wanted each city to sort of have its own very distinct feel, not just culturally, but aesthetically and geographically. And I wanted them to feel like they weren't interchangeable, like they weren't, you know, there's just a certain, at least to the American fantasy reader and in the American fantasy market, there's a certain generic and replicable quality to a lot of the backdrops, a lot of, oh, well, it's a castle. We've seen a castle a million times. It's a city. There's dirt. There's mud. There's syphilis. You know, it's just there's very little effort to differentiate and to really create that in-depth sensation of, oh, this could be a real place. It should be a real place. And I wanted to throw myself into that particular act of creation. Even if I screwed everything else up, I wanted vivid cities that felt like they could be visited apart from the story. Pat Rothfuss has a turn of phrase that he uses to describe how he wants to write. He wants to give his readers the sense that, you know, Quoth or whatever character he's writing walks down a street and turns right. But Pat wants to give the impression that if he turned left instead, there'd still be a neighborhood there. There'd still be people that goes on, that it's not just a movie set, that it's not just a video game set with a bunch of NPCs around to dispense quests and sell pies. That if you took off in any direction, you'd find a world full of people living their lives. And that's a difficult thing to do. That's a tall task to set oneself in the space we have available. But it interests me deeply as a writer. Pat Rothfuss is a little itty bitty. He's not very important. No one's ever really heard of him. But you know, give his books a try.
Donc en fait, effectivement, les villes sont très importantes dans mes romans. Personnellement, j'ai grandi dans un paysage idyllique, l'endroit le plus joli des États-Unis, selon moi, en tout cas, mais à l'extérieur de la ville et à l'ombre d'une grande ville. Je pense qu'avec 150 000 habitants, on peut parler d'une grande ville, en tout cas relativement. Pour moi, la ville, c'était toujours l'horizon, c'était là où on pouvait s'évader, c'était synonyme de liberté. Avec mes amis, dès qu'on a eu le permis de conduire, c'est là où on pouvait aller pour échapper à nos parents pendant quelques heures. Il y a plein de magasins, plein de trucs super cool à faire. Pour moi, la ville, c'était l'enchantement. Alors, j'ai vécu quelques années à Minneapolis, mais plus tard. Donc pour moi, vraiment, dans mon enfance, je n'ai pas vraiment connu les villes. Donc j'ai connu juste le plaisir de les visiter. Et c'est ce que je voulais faire avec mes villes dans mon monde de fantasy. Je voulais que ce soit des villes qui ne soient pas interchangeables, qui soient non seulement des villes d'un point de vue géographique, mais qui aient aussi... qui soit accompagné d'une sensation quand on les visitait. La plupart du temps, dans la fantasy américaine, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, tiens, bah, là, il y a un château. Bon, vous connaissez les châteaux, donc vous voyez comment c'est. Ou alors, c'est, bon, bah, y a une ville, alors c'est sale, il y a de la poussière, il y a la syphilis qui traîne, tout ça. Moi, je voulais quelque chose de très différent. Je voulais vraiment quelque chose en profondeur, que les gens se disent que c'était de vrais endroits dans lesquels ils pourraient se promener. Et je me disais bien que même si le reste du bouquin était complètement nul, je m'en foutais, il fallait que les villes elles soient bien faites. C'était vraiment mon truc. Et donc, il y a un auteur, Pat Rothfuss, qui dit que lui, ce qu'il voulait, c'était que le lecteur ait le sentiment que si son personnage longeait une rue et tournait à droite, avoir le sentiment que s'il avait tourné à gauche, il y avait également des bâtiments là, des gens qui y vivaient. Je voulais vraiment que, quelle que soit la direction qu'on prenne, on ait l'impression que la ville était complète. Et c'est extrêmement difficile à faire, mais c'était vraiment une thématique qui m'intéressait.
Comment vous construisez vos histoires? Vous êtes quelqu'un qui structurait beaucoup, vous savez exactement où vous allez, ou est-ce qu'au contraire vous vous laissez un petit peu porter par le récit?
I start by knowing exactly what I want to do. I build a very elaborate and detailed structure to work with. And then what typically happens a third of the way into it is the characters cease to cooperate and go a little crazy. And, you know, I have, you know, point A, where the story starts, and point, you know, Z, where it's intended to end. And I draw this as the path that's going to get us there. And what actually happens is, you know, this. But we end up at point Z regardless. It's just that, you know, ideally, if you're doing a good job of creating, oh God, this is borderline self-congratulation, for which I apologize. But I think ideally, if you're doing a decent job of giving these fictional characters something resembling a vivid emotional model, if you're doing making them somehow memorable, they will begin to take a secondary life on in your mind. They'll begin to suggest options that were not previously obvious. Once you've spent more time with a character, new angles in the story, new possibilities begin to unfold themselves. And so it's not so much a question of, oh God, I've lost track of what I was doing. It's just that you discover new routes to get where you wanted to go.
Alors, quand je commence, je sais exactement ce que je veux faire. J'ai un plan très détaillé. Et puis, au bout d'un moment, les personnages cessent de coopérer. Donc, ça ne marche pas. Alors, j'essaye d'aller d'un point A, qui est le début, à un point Z, qui est la fin. Normalement, ça devrait être comme ça. Et puis, quand les personnages cessent de coopérer, ça fait à peu près... Mais on arrive à Z quand même. Donc, déjà, en général, on arrive là où je veux. Et en fait, ce qui est dans l'idéal... Alors là, je vais juste me lancer un peu des fleurs. Je suis désolée. Si on crée des personnages qui sont vraiment vivants d'un point de vue émotionnel dans notre tête, qui ont une espèce de deuxième vie, ils vont nous proposer des options auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant. Quand on passe suffisamment de temps avec eux, de nouvelles possibilités s'offrent à nous, et du coup, c'est pas tellement qu'on perd de vue ce qu'on voulait faire, c'est qu'ils nous montrent un nouveau chemin pour y arriver.
How you added the sound effects to make it more clear.
Excellent. Voilà, j'aime beaucoup comment elle a rajouté des effets sonores pour que ce soit un peu plus clair.
Onomatopoeia. Hein? That's the English word for onomatopoeia. Okay. Bang, slap, bam. Onomatopoeia. And now you know. I taught you something.
Est-ce que ça veut dire que, c'est simple de reprendre après ça, est-ce que ça veut dire que vous avez déjà une idée très précise des 7 tomes et donc de la fin globale du cycle?
Oh God, yes. Oh yes, yes. Yes. And what has happened within the individual novels is definitely happening, you know, on the meta-narrative scale as well. But yes, I have a specific scene in mind to end the 7-book sequence. And we have to get there, and that's a difficult subject. It's an interesting subject, at least to me. I'm sorry, maybe incredibly boring to anyone not writing these novels. But the thing is if you spend long enough with a project, you know, I've been, you know, roughly, I don't want to think about it, 15 years or so thinking about Locke, planning this world, trying to build it. Is the term writer's room, a bunch of TV writers working on a program referred to as a writer's room in the U.S.? So you have TV episodes not being written by one person, but kind of by a bunch of people arguing and throwing things at each other. And the thing about living long enough, about getting old with a project, is that you essentially find yourself in a writer's room with yourself from 10 years ago. And so there's a real question. You know, Scott 15 years ago designed the project. Scott 12 years ago started the project. Scott, you know, 8 years ago had a couple different ideas. And it's like, Scott now, 15 years on, Do I have an obligation to my past selves to write the book I wanted when I was 26? Or do I write the book that the 40-year-old wants, which would be a better book in many respects? And so there's a pressing question, at least to me, of, you know, fidelity to oneself. You know, how do I finish what I began? How do I be true to what I began? Some people, you know, fall out of love with their projects. They spend so long with their characters that the characters become like detested relatives that they only want to see a couple times a year. And the example I always cite is C.S. Forrester, who wrote the Horatio Hornblower novels, who developed a sort of love-hate, you know, quasi-loathing of Horatio Hornblower, and wrote Horatio Hornblower a poem on the 20th anniversary of the publication of the first Hornblower novel, in which he basically, I can't quote it from memory, but it says something very close to, you know, I love you, Horatio, you've been good to me, you've paid the mortgage, but Jesus, I wish you'd go away, because we've known each other 20 years, and that's too long for anyone. And it's like, when you find yourself writing poems to your fictional characters telling them to go away, I think you've reached a point of burnout at which you probably should take a break. And I'm not there yet. Like I said, I'm still enchanted by the project. I still love every chance I get to work with Locke and Jean. And I can tell when I'm particularly attuned to them because I dream about them. And when I'm not dreaming about them while I'm asleep, I'm a little worried. It feels like I've become disconnected. But when they're there while I'm asleep, everything's great. And so it's that effect. It's like I'm having an argument with my past selves in the pages of a work that we share. It's what it feels like.
Alors oui, effectivement, pour chaque roman, en fait, j'avais prévu un bout d'histoire, et pour l'instant, c'est bon, on s'y tient. Et j'ai très précisément en tête la scène finale du 7e roman. Mais il faut que j'y arrive. Il faut arriver jusque-là. Alors, c'est vraiment quelque chose de très difficile et qui m'intéresse énormément. Alors, pour vous, ça va peut-être complètement être chiant à écouter. Mais moi, ça m'intéresse de savoir que bah, ça fait 15 ans que j'écris ces romans. Ça fait 15 ans que je vis avec Locke, avec son monde. Et au final, ce qui se passe, c'est... Alors, pour les séries télé, quand ils écrivent les scripts, ils sont plein de gens pour écrire l'histoire qui s'enferment dans une pièce, qui se jettent des trucs à la figure parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, ils essayent de se mettre d'accord pour écrire les scripts. Et bien, moi, c'est un peu la même chose, sauf que je me retrouve dans cette pièce avec moi-même d'il y a 15 ans. Ou 10 ans, ça dépend. Donc, parce que j'ai commencé à penser ce projet il y a 15 ans, j'ai commencé à l'écrire il y a 12 ans, j'ai eu des idées un peu différentes il y a 8 ans, et aujourd'hui... Je me demande si j'ai une obligation envers mon moi-même de 26 ans ou si je devrais plutôt suivre les conseils de mon moi-même d'aujourd'hui, de presque 40 ans, qui écrira sans doute un meilleur livre. Mais ça me pose un problème de fidélité par rapport à ce que moi je voulais avant. Alors il y a certains écrivains qui n'en peuvent plus de leur projet quand ça prend trop de temps. Ça devient un peu comme des membres de votre famille que vous pouvez plus supporter et qu'il faut juste supporter à Noël. Et notamment l'écrivain de Horatio Hornblower. Je ne sais pas s'il y a un titre en français. Non plus, d'accord. Donc, l'auteur de ce personnage l'aime et le déteste. Il en est arrivé à un point où, au bout de 20 ans de ce projet, il a écrit un poème qui donne à peu près ça. « Oh, toi, Horatio Hornblower, je t'aime. Tu as payé mon hypothèque sur la maison. Mais franchement, si tu pouvais t'en aller, ça m'arrangerait. » Et je pense que quand on écrit ce genre de choses à un personnage qu'on a inventé 20 ans auparavant, on est au bord du burn-out. Moi, j'en suis pas là. J'adore toujours mon projet. Je sais que je suis encore en phase avec ce projet parce que je rêve de mes personnages. Quand j'en rêve pas, ça m'inquiète un peu plus. Je me dis que je suis en train de perdre le fil. Mais j'en rêve régulièrement et ça me rassure. Je me dis que je suis encore dedans. Mais du coup, mon problème, c'est effectivement cet argument de savoir si je dois être fidèle à mon moi d'il y a 12 ans ou être fidèle à qui je suis aujourd'hui.
Justement, comment évoluent les personnages pour vous dans votre tête, dans votre relation à eux ? Vous avez un peu vieilli ensemble ?
A bit. Of course, I'm not old. I'm so old. But, I mean, you know, Locke was always intended to age, and, you know, I didn't know how fast I'd be able to write the novels, but he was always intended to, you know, to live as long as I'm going to allow him to live. But, you know, we're not always going to see him as a young man. or as a child. And the characters have just, you know, so many of my presumptions when I began. I mean, when I began the novels, I mean, the story was about Locke, and everyone else was a sidekick. I wrote Jean Tannen in particular as a sidekick, and he was Locke's little buddy. And as I spent more time with Jean, the interesting thing I discovered about Jean is that Jean is nobody's fucking sidekick. And that Jean is in many circles, more popular than Locke. My own wife is Team Jean all the way. And wishes Locke would shut up and die, but I discovered that, you know, the weird thing is you know I made him, and he sort of just showed up on his own. I'm like, you're a sidekick, and he's like, no, I am not. I am my own person. And so Jean has enriched himself, and that happened completely by accident, or happy accident. I'd originally intended to write a little vignette, a little bit for The Republic of Thieves, showing Locke and Jean as teenagers. And my original notes from many years ago are Jean loses his virginity after Locke does something clever and tricksy to get a girl to, you know, go with Jean. And after spending a book or two with Jean, you realize that Jean doesn't need Locke's help. That's ridiculous. Ladies love Jean Tannen, and Locke doesn't need to get involved. Locke is the one who needs help. That was just sort of an organic transformation from a very thin stereotype to a character who kind of, I hope, stands on his own. So I hope that happens as I spend more time with these characters. They move out of the roles that I assumed that they were going to fill. They move away from the... Because when I'm writing a story... There's two ways to essentially fill what needs to be filled. Sometimes I know that I have a specific character I want to put into a book. I have a name. I have a personality. I just know that I want to write such and such. And sometimes I know that I have a place in the story for a character shaped like this. I have a need. If this makes sense. You know, sometimes I want to write an argumentative, sarcastic, you know, firebrand character. Otherwise, I might know that I need a character who will drive the carriage and ask Locke some questions. So if I don't have, you know, I can take a personality and find a role to fit it, or I can take a role and design a personality to fill it. And that's kind of my work process. If anything I've just said makes sense, I'll be very pleasantly surprised.
Alors, oui, un peu, parce que bon, non, je suis pas vieux. Ah, si, je suis vieux. Mais c'était toujours prévu que Locke vieillisse, lui, qu'il vive aussi longtemps que je le laisserai vivre. Mais par contre, il ne sera pas toujours un enfant ou un adolescent. Au début, j'avais prévu Locke comme personnage principal et qu'il aurait à côté de lui d'autres personnes juste pour l'entourer, dont par exemple Jean, qui est un petit gaillard. Et en fait, Jean n'est pas du tout inférieur à Locke. Bien souvent, il est plus populaire. D'ailleurs, ma femme est de l'équipe Jean à fond. Elle voudrait que Locke meure. Elle s'en fout, lui. Mais quelque part, ce personnage-là, il m'est apparu et je pensais que ça allait juste être un personnage secondaire comme les autres. Et en fait, il est venu me voir. Il m'a dit non, je suis un personnage à part entière et ça se passera comme ça. Donc, il s'est enrichi lui-même. C'était par accident, mais c'est plutôt positif. Et par exemple, dans La République des voleurs, Jean et Locke sont adolescents, et j'avais prévu d'écrire une histoire où Locke allait piéger une fille et la convaincre de coucher avec Jean, qui, lui, n'avait jamais couché avec personne. Et en voulant l'écrire, je me suis dit, non, mais il n'a pas besoin d'aide, Jean. Il est beaucoup plus populaire que Locke. C'est complètement ridicule. À la limite, ce serait plutôt Locke qui aurait besoin d'un coup de main. Donc, quelque part, le personnage s'est transformé. Il est passé d'un vrai stéréotype à un personnage beaucoup plus élaboré et intéressant. J'espère que ça se reproduira avec d'autres personnages. Je pense que les personnages que je... Quand je commence à les écrire, je leur prédis un rôle. Mais bien souvent, ils dépassent ce rôle. Et quand j'écris, j'ai deux façons de créer des personnages. Soit il y a un personnage qui me vient, il a déjà une personnalité, un nom, je sais déjà comment il est, je sais à peu près, enfin voilà, sa personnalité. Mais parfois, parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un qui va conduire Locke quelque part et lui poser quelques questions, mais j'ai pas de prérequis sur comment il va être. Donc c'est deux façons différentes de créer des personnages, et j'espère que ce que je viens de dire avait un sens quelconque.
Il nous reste 7 minutes, le temps file. J'avais encore plein de questions, mais à vous, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Scott Lynch ? Alors, attendez, je vous apporte le micro.
Bonjour, je vais poser ma question en français. ça sera plus simple, je pense. En fait, tout à l'heure, au tout début de la conférence, on parlait de la structure des romans. Et moi, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai trouvé admirable dans ces trois romans, c'est leur structure. Pour moi, il y a une structure de spirale, en fait, où le récit commence doucement, en prenant son temps, et plus on se rapproche de la fin, plus la narration est rapide, plus les choses se passent vite, et finalement, des fois, on est à 30 pages de la fin, et on se dit, mais comment est-ce qu'en 30 pages, tout va être résolu ? Et je me demandais si, quand vous écriviez cette structure en spirale, vous l'aviez en tête, ou c'est quelque chose qui est venu comme ça
No, thank you very much. I really appreciate it. It's nice when people notice what you're trying to do. And those are very kind words. I don't want to say standard, but it's the ideal structure of a heist narrative or a caper narrative is that you will have this slow build of element upon mystery upon element upon mystery, and then a very rapid acceleration of events. Long preparation, many questions asked, something goes wrong or appears to go wrong, and then all of the dominoes fall very rapidly, and everything accelerates to a conclusion where ideally all of the themes, all of the elements, all the characters come together into one explosion of meaning. But that's, ideally that's what a good heist movie does. That's what a good caper movie does. You put the pieces on the board, and then you do this to the board. And then, you want the reader or the viewer to have that, oh my God, how could this possibly come together? How's it going to make sense? Sensation. So it's a machine. It's a machine for keeping the reader on the edge of their seats. I say it like it's such a simple thing to do. It isn't. It just requires painful attention to detail. And the thing is, I love heist and caper narratives even when I'm not writing them, so I guess I have a certain devotion to that aspect of the art. It's a real pleasure to construct those machines and watch them kaboom.
Alors merci déjà, merci beaucoup pour cette question, et c'est toujours sympa quand on voit que les gens remarquent quelque chose qu'on a eu bien du mal à faire. Alors effectivement, pour ce genre d'histoire, c'est la structure idéale, c'est de commencer très lentement, avoir des éléments de mystère qui s'accumulent, on se pose de plus en plus de questions, quelque chose tourne mal et ça s'accélère et à la fin tout explose, enfin tous les personnages se retrouvent et tout explose. C'est comme quand on a un jeu de plateau où on met tous les pions et bam, on envoie tout valser. C'est le même principe. Et justement, le but du jeu, c'est que les gens se disent « Oh mon Dieu, mais comment il va pouvoir résoudre ça d'ici la fin du roman ?» Alors, c'est vraiment un mécanisme pour garder les gens vraiment à fond dans l'histoire. Je vous raconte ça comme si c'était facile, ça ne l'est absolument pas. Il faut vraiment faire très attention aux détails, c'est vraiment un grand travail. Mais vraiment, c'est le genre de machination que j'explose. Ouais, je mélange tous les mots là. Que j'adore, pardon. Justement, cet aspect d'une espèce de... Tout se regroupe et à la fin, tout explose. Boum. Voilà.
Une dernière question.
I said kaboom, not boom.
Oh, sorry, kaboom.
Okay. Kaboom. Close enough.
Yeah, well, I got that from this. So
je voulais juste savoir ce que vous pouvez nous dire du tome 4.
I would like to know what you can tell us about the fourth book.
C'était ma question, je suis content.
That was my question, so I'm happy she's asking it.
What fourth book?
Quel quatrième roman?
Sorry, I did that yesterday. I won't do that today. Okay, Thorn of Amberlane picks up immediately in the aftermath of, like, the very same night that Republic of Thieves ends, and follows Locke and Jean as they leave the city of Carthane. As their first thought is simply to get away, and they gradually evolve a scheme to try and make some money, and that sort of thing always works out so great for them. I'm sure it's going to be brilliant, and they're going to end the novel rich. Every novel so far has had sort of a different focus, a different theme. Lies was the introductory story, the revenge story. Red Seas was the caper. Republic was romance and politics, and now this is war. The kingdom of the Marrows, the kingdom of in the north, the Vaadren people, are having a civil war that is about to get very, very serious. And Locke and Jean are going to get involved, trying to make money, and that's not going to go so well for them. We're also going to be following a certain set of other characters, because the series henceforth is going to cease jumping around quite so much, and we're going to stay more or less focused in Emberlane and in the Kingdom of the Marrows. And obviously we're going to visit different places, but it's not going to be the city every book thing anymore. And we're going to spend a lot of time with this ongoing cast of Vaadrens fighting this civil war, who are, in their own right, protagonists in their story, but just happen to end up opposed to Locke and Jean for various reasons. So I hope that they'll be sympathetic, and I hope that they'll be, once again, they're vulnerable and loyal to one another, and horrible things happen to them. You know how I operate by now. And there are a lot of thematic reflections between these people and the gentleman bastards, between the young would-be prince of the Marrows, Anton Strada, and Locke Lamora. So it's the most epic in scale of the books so far. There are actual battle scenes. There's a lot of politics, a lot of espionage, and the big question is, you know, where in the gears of this big bloody grinding machine that is the war, is there room for a pair of con artists to try to make a living? And as you know, Jean is the one who raises the question: should we be trying to make a living in this situation?
Alors, oui, j'ai déjà fait la blague hier de dire qu'il n'y aurait pas de quatrième, mais je ne vais pas la faire aujourd'hui, je ne suis pas si méchant. En fait, le quatrième roman, donc La Ronce d'Amberlin, commence la même nuit que se termine La République des voleurs. Donc, Locke et Jean quittent la ville. Au début, ils veulent tout simplement fuir, et puis après, ils se disent qu'ils vont bien trouver un moyen de se faire de l'argent, parce que ça fonctionne tellement bien pour eux, comme à chaque fois. Ils vont finir riches, j'en suis sûre. À mon avis, le quatrième bouquin, ils finissent riches. Chaque roman avait un thème particulier. Le premier roman était une espèce d'introduction, plus la thématique de la revanche. Pour le deuxième, c'était plus un roman de cap et d'épée. Le troisième, c'était plus de la romance et de la politique. Et le quatrième, la thématique, ce sera la guerre, parce qu'il va y avoir une guerre civile chez les Vaadrens. Et Locke et Jean vont essayer d'en profiter pour se faire de l'argent, et ça ne va pas se passer correctement. Pas comme ils l'avaient prédit, en tout cas. Il y aura également d'autres personnages qui vont apparaître. À partir de ce roman-là, on va moins voyager par à-coup, on va dire. On va plus se concentrer sur Amberlin. On va passer plus de temps chez les Vaadrens, donc vont avoir une guerre civile. Il y aura des personnages du coup qui lutteront pour les Vaadrens et qui vont aller savoir pourquoi se retrouver aller à l'encontre des désirs de Locke et Jean. Donc il va forcément arriver des choses horribles à Locke et à Jean. Ça, vous savez comment je fonctionne depuis le temps. Mais ce sera le roman le plus épique. Il y aura des scènes de bataille, il y aura de la politique, de l'espionnage. Et la vraie question, c'est: y a-t-il de la place dans une guerre civile pour monter une escroquerie et se faire de l'argent? Et d'ailleurs, Jean a le bon sens de demander à un moment: est-ce qu'on fait bien d'essayer de gagner de l'argent étant donné la situation?
Merci beaucoup, Scott Lynch. Tout de suite, vous le retrouvez en dédicace. Pardon, parce qu'il y a une autre conférence qui commence tout de suite et on a 2 minutes de retard. Merci à vous, merci à lui.
Thank you so much.